Vera. L'amour est plus fort que la mort, a dit Salomon. Oui. Son mystérieux pouvoir est illimité. C'était à la tombée d'un soir d'automne en ces dernières années à Paris. Vers le sombre boulevard Saint-Germain, des voitures allumées déjà roulaient et attardées après l'heure du bois. L'une d'elles s'arrêta devant le portail d'un vaste hôtel seigneurial entouré de jardins séculaires. Le cintre était surmonté de l'écusson de pierre aux armes de l'antique famille des comtes d'Atoll, savoir d'azur, à l'étoile abîmée d'argent avec la devise « Pallida Victris », sous la couronne retroussée d'hermine au bonnet princier. Des lourds battants s'écartèrent. Un homme de 30 à 35 ans, d'œil au visage mortellement pâle, descendit. Sur le perron, de taciturnes serviteurs élevaient des flambeaux. Sans les voir, il gravit les marches et entra. C'était le comte d'Atoll. Chancelant, il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette chambre où, le matin même, il avait couché dans un cercueil de velours et enveloppé de violettes en des flots de batiste sa dame de volupté, sa pâlissante épousée, Vera. Son désespoir. En haut, la douce porte tourna sur le tapis. Il souleva la tenture. Tous les objets étaient à la place où la comtesse les avait laissés la veille. La mort subite avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s'était évanouie en des joies si profondes, s'était perdue en de si exquises étreintes que son cœur brisé de délices avait défailli. Ses lèvres s'étaient brusquement mouillées d'une pourpre mortelle. À peine avait-elle eu le temps de donner à son époux un baiser d'adieu en souriant sans une parole, puis ses longs cils, comme des voiles de deuil, s'était abaissé sur la belle nuit de ses yeux. La journée sans nom était passée. Vers midi, le comte d'Atoll, après l'affreuse cérémonie du caveau familial, avait congédié au cimetière la noire escorte. Puis, se renfermant seul avec l'enseveli entre les quatre murs de marbre, il avait tiré sur lui la porte de fer du mausolée. De l'encens brûlé sur un trépied devant le cercueil, une couronne lumineuse de lampes au chevet de la jeune défunte l'étoilait. Lui, debout, songeur, avec l'unique sentiment d'une tendresse sans espérance, était demeuré là tout le jour. Sur les 6 heures au crépuscule, il était sorti du lieu sacré. En refermant le sépulcre, il avait arraché de la serrure la clé d'argent et, se haussant sur la dernière marche du seuil, il l'avait jetée doucement dans l'intérieur du tombeau. Il l'avait lancée sur les dalles intérieures par le trèfle qui surmontait le portail. Et pourquoi ceci? Bon, à coup sûr, d'après quelques résolutions mystérieuses de ne plus revenir. Et maintenant, il revoyait la chambre veuve. La croisée, sous les vastes draperies de cachemire mauve brodée d'or, était ouverte. Un dernier rayon du soir illuminait dans un cadre de bois ancien le grand portrait de la trépassée. Le comte regarda autour de lui la robe jetée la veille sur un fauteuil. Sur la cheminée, les bijoux, le collier de perles, l'éventail à demi fermé, les lourds flacons de parfum qu'elle ne respirerait plus. Sur le lit d'ébène aux colonnes tordues, restait défait auprès de l'oreiller, où la place de la tête adorée et divine était visible encore au milieu des dentelles, il aperçut le mouchoir rougi de gouttes de sang où sa jeune âme avait battu de l'aile un instant. Le piano ouvert, supportant une mélodie inachevée à jamais, les fleurs indiennes cueillies par elle dans la serre et qui se mouraient dans de vieux vases de Saxe, et au pied du lit, sur une fourrure noire, les petites mules de velours orientales sur lesquelles une devise orieuse de Vera brillait brodée en perles. qui verra, verra, l'aimera.